pas parce qu'elle dure qu'une ville est durable. On peut prendre même d'autres exemples. Un réacteur nucléaire, ça dure. La radioactivité, ça peut être extrêmement durable. Pour autant, on n'est pas dans le développement durable. Le développement durable dit la solidarité. Dit la solidarité entre les gens d'un territoire, mais dit aussi la solidarité, évidemment, vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis des gens qui ne sont pas sur ce territoire. Donc une ville durable, c'est d'abord une ville responsable qui pose la question du bien-être et du devenir de ses habitants, mais qui se pose aussi la question de l'impact de la vie, de l'activité de cette ville sur des habitants qui sont ailleurs et qui se posent évidemment la question de comment des gens qui n'existent pas encore, les générations futures, vivront dans ce territoire ou subiront les conséquences de ce territoire et de cette ville. C'est ça une ville durable. Donc une ville durable, c'est une ville qui se pose des questions qui sont quand même des questions nouvelles.
Le ministère du Développement durable a lancé en 2008 le premier concours national d'écoquartier. En 2009, 160 projets ont été déposés, 28 récompensés. Dans la catégorie biodiversité nature en ville, les projets de la ZAC des Perrières, de la Chapelle-sur-Erdre et de la Pré-Reduc à Nantes ont été primés, ainsi que le projet de la ZAC Bottière-Chenet à Nantes dans la catégorie densité et formes urbaines.
J'habite dans ce quartier il y a à peu près un an. C'est un quartier déjà écologique, écolo, on va dire. Et puis... au niveau, comme vous voyez bien, donc c'est assez grand, les balcons sont larges, et puis c'est. Voilà, je sais pas quoi dire.
Vous habitiez sur Nantes ?
Oui, voilà, j'habitais sur Nantes, j'habitais sur la route de Paris avant. Après, une fois que je me suis marié, donc je me suis installé là, et puis c'est super bien, c'est super calme, c'est un quartier qui est très calme. Qu'on n'entend pas déjà, ça ne résonne pas au niveau du désolation. Mais là, j'ai appris à le connaître, donc et je ne suis pas prêt à m'en séparer.
Ronan Dantec, vice-président de Nantes Métropole, en charge de l'environnement.
L'appel à projet du ministère avait été lancé sur des cibles particulières. Donc pas sur une démarche durable, globale des quartiers. On était même plus dans une vision, je pense, un peu restrictive de l'éco-quartier au sens du fait de répondre à un certain nombre d'enjeux environnementaux. Et quand moi je parle d'éco-quartier, je parle bien d'un morceau de la ville durable. Et c'est vrai que les termes ne sont pas encore tout à fait stabilisés, me semble-t-il. Nous, quand on dit éco-quartier sur Nantes, et je crois qu'on peut être assez fier de ce qu'on a bâti, c'est parce que sur tous ces territoires de projet, on est sur 25% de logements sociaux, on est sur une part de logements accessibles pour des petites classes moyennes, en plus des enjeux environnementaux un peu classiques, entre guillemets. On est sur des enjeux de mobilité, par exemple. Nantes, c'est quand même un des axes forts, donc il y a toujours du transport en commun en site propre, des enjeux de déplacement doux, piéton-vélo. Donc, nous, on a bien une vision globale d'un écoquartier comme un élément d'un territoire de développement durable. Mais c'est vrai que l'appel à projet éco-quartier du ministère a été lu plus ciblé. Il y a eu une quarantaine de projets primés en France. Nous avons l'extrême fierté dans l'agglomération nantaise d'être les seuls à avoir eu plusieurs projets, trois, deux sur Nantes, un sur la Chapelle-sur-Erdre, qui ont été primés. Et qui ont été primés de manière différente. Mais pas sur des normes, sur des logiques de projet. Par exemple, le dialogue avec le fleuve, la biodiversité sur le projet qui sera sur la pointe ouest de l'île de Nantes, la logique urbanistique globale de Bottière-Chenet, qui est une logique intéressante, c'est-à-dire on densifie l'habitat et d'une certaine manière on le compacte, ce qui nous permet de libérer un espace vert, même un espace de biodiversité avec un débusage de ruisseaux, qui sera un espace fédérateur. Ça, ce sont des logiques qui ont été effectivement primées par le ministère, mais ce ne sont pas des normes.
Le bruit de l'eau, a le parfum de nos rires. La chair de nos sanglots, la douceur de nous suivre. Là-bas sur l'autre rive, où nos songes dérivent, le bruit de l'eau paraisse, sous d'étranges caresses. Tant d'écho nous traverse, qu'au fil de l'eau, on verse une goutte d'ivresse, une larme de liesse.
Installé depuis combien de temps ?
Depuis 19 mois.
19 mois.
Mm-hmm.
Et avant ?
Avant, dans une très grande entreprise de sport.
Alors cette bascule ?
Le goût pour le chocolat. Voilà, et depuis longtemps, avant de quitter cette entreprise, je souhaitais m'installer en tant que revendeur de chocolat. on ne peut pas dire chocolatier, puisque je revends du chocolat, je ne fabrique pas. Voilà, donc j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie et je ne regrette surtout pas.
Comment vous êtes arrivé dans ce nouveau quartier où il y a tout à lancer ?
J'avais entendu parler que c'était un éco-quartier, que c'était le seul endroit sur Nantes où ça allait se développer par rapport à toutes les infrastructures qui allaient être autour, etc. Et puis je me suis dit, ben, il y a certainement un potentiel à exploiter. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure du chocolat. Voilà. J'habite plus vers le centre de Nantes. Mais je me rapproche, dès le mois de septembre, je me rapproche de ce secteur. Voilà.
Vous utilisez les transports en commun ? Parce que c'est un éco-quartier.
Je pense qu'il a le nom d'éco-quartier pour l'instant, mais tous les transports en commun n'arrivent pas jusqu'ici. Le chronobus n'arrivera qu'en 2013. Donc à ce moment-là, on verra pour parler des transports en commun, quand il y en aura vraiment.
Tramway, pas très loin. Hein.
Tramway, mais pour venir de l'Hérodière, le tramway, ça va être assez compliqué.
Aujourd'hui, très clairement, tout grand projet qui émerge sur Nantes et sur l'agglomération nantaise, principalement en ZAC, c'est-à-dire en zone d'aménagement concerté. Pourquoi en ZAC ? Parce que là, la maîtrise publique est beaucoup plus importante, c'est-à-dire on a le foncier. Donc ce qui permet d'avoir un dialogue avec les promoteurs, en clair, si les promoteurs ne rentrent pas dans notre niveau d'ambition et d'exigence, ils n'ont pas accès au foncier. Donc on a un rapport de force qu'on n'a pas dans ce qu'on appelle le diffus. Où là, on a un promoteur qui achète directement un propriétaire privé, et c'est le code de l'urbanisme, et la municipalité n'a pas le droit de lui imposer ce qu'elle veut. Par exemple, on ne peut pas imposer, je réponds souvent à cette objection-là, en disant, il n'y a pas de panneaux solaires dans la ville, on n'a pas de capacité par nos compétences villes d'imposer à un promoteur de mettre des panneaux solaires, ce n'est pas possible. C'est le code de l'urbanisme qui s'applique. Mais sur les actes, effectivement, le dialogue avec les promoteurs est différent. Donc aujourd'hui, tous les espaces en ZAC sur la ville répondent à nos enjeux en termes d'éco-quartier de développement durable. Mixité sociale, rôle clé de l'espace public comme élément fédérateur de la vie collective. Ça a été par exemple l'élément clé de la trame de création de l'île de Nantes. On a commencé par l'espace public. Potière-Chenet, il y a beaucoup d'espace public. Saint-Joseph de Porterie, la trame de cheminement doux est assez dense et fédérative. Donc tous les projets qui émergent aujourd'hui dans l'agglomération, en plus les ZAC, les zones d'aménagement concertées, sont passés de compétences communautaires, donc peuvent répondre à notre cahier des charges d'éco-quartier. Il est clair que tous ces secteurs de projets répondent à ces enjeux. Sur l'enjeu environnemental plus spécifiquement, on est aujourd'hui sur des enjeux d'abord climatiques, clairement. Donc ça veut dire la qualité du bâti en termes énergétiques. Alors on l'avait fait sur l'île de Nantes avec le projet européen Concerto, mais aujourd'hui les normes qui sont sorties du Grenelle sont même presque plus ambitieuses que ce qu'on a initié en étant pourtant à l'époque plutôt en avance sur notre temps sur le projet Concerto. Donc c'est des questions énergétiques, y compris structurantes. Est-ce qu'on développe du réseau de chaleur ? Ça c'est une réponse climatique et énergétique très très forte, très très lourde. Et beaucoup de puissance publique, mais aussi des enjeux de biodiversité. C'est évidemment des quartiers aujourd'hui, par exemple, sur l'aménagement fin des espaces verts, on essaye de les concevoir pour que, comme il n'y aura pas de phytosanitaire, puisque là, le zéro phyto est quand même inscrit dans le développement de la ville, il n'y ait pas des difficultés d'entretien trop élevées, puisqu'il va y avoir plus de mécanisation. Voilà, ça c'est un exemple un peu fin en termes d'aménagement. Et puis, de plus en plus, des questions de biodiversité, y compris avec le fait qu'on se soit doté à Nantes d'un conseil nantais de la biodiversité, avec des scientifiques de renom au niveau français, ça va orienter un certain nombre de préconisations. Un exemple type est de se dire qu'un bâtiment, donc il peut y avoir des contradictions d'ailleurs, le bâtiment avec peu d'infractuosité, peu propice à un certain nombre de biodiversité, de plantes qui s'agrippent, d'oiseaux qui nichent dans les murs. Donc il faut trouver un peu des fois des équilibres ou recréer, comme ça se fait dans certains nombres de villes, des nichoirs martinets. Enfin, donc il y a beaucoup de choses. Et puis je crois qu'il y a un enjeu de revégétalisation de la ville, y compris parce que comme il va faire plus chaud, c'est une approche un peu bioclimatique, avoir des îlots verts avec des arbres, avec des buissons, ça devrait permettre de garder des températures un peu moins élevées que dans du minéral pur.
Aujourd'hui, c'est complètement nuageux. Alors, je vous voyais sur cette esplanade, je ne savais pas ce que vous cherchiez. Je vous signale que c'est intenable quand il y a le soleil. Vous avez intérêt à venir avec des lunettes. Et vous avez vu aujourd'hui, malgré le temps, je me suis mis une casquette à large visière. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Les arbres n'ont pas encore poussé.
évidemment du logement social, 25% de logements sociaux dans chaque opération, donc c'est extrêmement important. Et puis, au-delà des personnes qui correspondent plutôt aux critères du logement social, on s'est beaucoup battu, sur Bottière-Chenet, ça a été très suivi par Jean-Marie Pousseur, par exemple, l'adjoint à l'urbanisme, sur le fait qu'on soit sur un prix de mètre carré qui rende l'accession possible pour les petites classes moyennes. Ce qui voulait dire aussi, et ça c'est dans la règle d'attribution et de vente sur Bottière-Chenet, puisqu'il y avait un effort de la collectivité à ce moment-là, soit sur le prix de revente du foncier, enfin on a fait en sorte que les promoteurs puissent sortir des programmes accessibles, qu'on a rajouté des clauses de non-revente immédiate des logements, pour éviter d'avoir des gens finalement qui achetaient à pas cher, en dessous le prix du marché, sur ces espaces-là et qui revendaient rapidement en faisant du bénéfice. Donc on a bien choisi de permettre l'accession pour des personnes à revenus modestes, mais du coup on a rajouté des règles pour qu'ils ne puissent pas être non plus tentés de revendre beaucoup plus cher 2 ans après. Mais ça a été un axe fort des projets, y compris du coup en n'allant pas toujours aussi loin qu'on l'aurait souhaité pour des questions de coût de la construction sur la qualité de l'efficacité énergétique. Donc là aussi on a fait une balance et ça c'est du développement durable.
Enfin, au bout de 7 ans, on peut spéculer.
Oui, mais ce n'est pas pareil que de spéculer à 6 mois. Il faut aussi permettre aux gens d'évoluer dans leur propre projet et dans leur propre parcours résidentiel. Mais ça voulait dire qu'à partir du moment où on met cette clause-là, que personne n'a acheté pour revendre immédiatement.
J'ai l'habitude de venir à vélo et vous remarquerez qu'alors que cette voie est toute neuve, il n'y a pas de piste cyclable.
C'est en bicyclette que je m'en retourne chez moi. C'est en bicyclette, et hop, c'est tout droit. Faut dire que je viens de me réveiller, allonger la tête dans un fossé. La bicyclette, tout contre moi, je la relève et hop, je m'en vais tout droit.
Il fait bon vivre ici.
Oui, je regrette surtout pas de m'être installé ici. Si ce n'est que on aurait, moi comme tous les autres commerçants, on aurait espéré que on puisse laisser un petit peu plus de liberté entre guillemets aux gens pour pouvoir se stationner. C'est toujours le gros problème. J'ai encore une cliente ce matin qui m'a dit voilà comment on fait pour arriver jusqu'ici. Alors, quand on leur conseille de prendre les transports en commun, bon ben quand les personnes sont handicapées, qu'elles ne peuvent pas faire 900 mètres pour aller rejoindre les transports en commun, c'est pas évident. Donc ça reste le souci, mais bon, la municipalité nous a quand même pas mal aidé par rapport à ça, faut pas le cacher. Et bon, mais il y a encore des choses à faire, certainement. Surtout quand il n'y aura plus les parkings provisoires. Voilà. Mais autrement, il fait vraiment bon vivre dans le quartier. À refaire sans problème.
Ce matin, j'ai acheté du pain. J'ai dit bonjour à la boulangère.
Chocolat. Alors qui pose la question, la place de la voiture.
On peut toujours préférer quand on est commerçant, encore que aujourd'hui les commerçants du centre-ville de Nantes nous soutiennent très fortement sur la réduction de la place de la voiture, alors qu'il y a 20 ans justement ils étaient sur une autre vision, donc les choses évoluent plutôt dans le bon sens. Donc peut-être que lui préfère avoir 4 places de parking devant chez lui pour ses clients qui viendraient d'un peu partout dans Nantes, ce qui est tout à fait légitime vu de son point de vue. Mais Bottière-Chenet est un quartier bien desservi en transport public, ça fait partie de la logique éco-quartier, de la cohérence de ce projet.
Comment peux-tu dire de ma ville qu'elle est laide quand elle se dresse fière face à l'océan ?
Et puis je viens aussi à pied. Et quand je vais à pied et qu'il a plu, vous avez intérêt à faire attention, hein, à avoir des chaussures qui vendent tous bien parce que sinon vous cassez la figure. Il faut faire très attention. C'est très lisse et ça glisse.
Parlons de la place glissante.
Ça veut dire qu'effectivement, tout projet est améliorable. Bah, écoutez, c'est peut-être un espace public sur lequel il faut se re-questionner et qui lui évoluera. C'est-à-dire, un quartier d'une ville durable, c'est à l'inverse finalement d'une certaine idée de la durabilité, quelque chose qui n'est pas figé. Donc peut-être que cet espace-là doit être revu et devra être amélioré sans certainement être totalement reconstruit pour des questions de coût. Mais j'entends complètement la remarque. C'est-à-dire, il n'y aurait rien de pire en développement durable que d'être autiste aux remarques sur le fait que tout n'a pas été réalisé au mieux.
Et notamment de jeunes couples avec de jeunes enfants posent la question de la sécurité du plan d'eau.
Avec l'espèce de plan d'eau qu'on a à côté qui est juste dangereux.
C'est une question sur laquelle j'ai absolument pas de vision. Donc,
c'est au premier noyer.
C'est, il faut éviter le premier noyer, bien sûr, c'est évident. Est-ce que c'est une perception ou une réalité ? La sécurité, c'est toujours un peu cette question-là. Je suis absolument incapable de répondre à cette question, n'ayant pas le plan d'eau en tête. Mais je note la remarque que je transmettrai à l'adjoint en charge de la sécurité de la ville de Nantes. Je suis d'accord pour dire que l'animation territoriale est vraiment au cœur du développement durable. Mais ça pose la question des moyens de la ville, parce que l'animation, c'est extrêmement chronophage, c'est de l'humain, donc ça coûte très cher. Donc il y a à trouver les équilibres là-dessus. Mais on voit bien l'enjeu de l'animation par la puissance publique. Il y a un exemple très très simple de ça, qui est le Printemps des Voisins. Alors, c'est pas spécifiquement Nantais, mais le Printemps des Voisins, c'est quand même un truc où il faut que la ville organise un temps soit peu, c'est-à-dire peut-être ne serait-ce que mettre quelques tables et quelques barrières pour que des voisins se disent bah, « ça serait sympa de manger ensemble ». Donc là, il y a une perte de spontanéité quand même des dynamiques sociales et avec une demande permanente d'animation finalement par la ville. Aidez-nous à nous rencontrer, c'est vraiment la demande. Pour espérer, heureusement maintenant les réseaux sociaux sont capables d'organiser des choses parfois un peu compliquées à gérer sans cette médiation-là, mais ça c'est une vraie question.
Succès de l'opération.
Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'évaluation des politiques en développement durable, on est encore un peu court pour véritablement évaluer. Il y a énormément de critères d'évaluation possibles. Il y a ce que les habitants vont dire en termes de bien-être. Il y a la réalité de la mixité sociale au-delà du discours. Est-ce qu'effectivement, on maintient cette mixité ou au final, on n'y arrive pas ? Il y a des critères objectifs environnementaux. La contamination des eaux par les phytosanitaires, soit on contamine, soit on ne contamine pas. Les émissions de gaz à effet de serre du territoire, ça, on va le comptabiliser. Donc il y a à la fois des choses qui tiennent du vécu des habitants, donc avec des difficultés d'évaluation normées par définition, mais aussi des enjeux, notamment environnementaux, qu'on va quantifier de manière de plus en plus précise. Là, c'est des outils qui sont un peu émergents, on a encore pas mal d'étalonnage à faire, mais j'espère d'ici 2-3 ans avoir une possibilité d'évaluation assez fine, climatique et énergétique, d'un territoire de projet comme l'île de Nantes.
Ce bilan climatique et énergétique, ce n'est pas central.
Non, c'est un élément. C'est un élément important. Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, c'est un élément incontournable. Plus peut-être incontournable que central. C'est-à-dire qu'on est obligé d'y répondre. Mais si on disait central, ça voudrait dire qu'on considérerait que le reste se construit autour, notamment l'enjeu social. Or non, l'enjeu social aussi est incontournable. Donc on a nécessité de réponses fortes à ces enjeux de cohésion sociale, donc un peu de solidarité immédiate vis-à-vis des gens qui vivent là, et de réponse aux enjeux environnementaux lourds, notamment climatiques, qui est aussi la réponse par rapport aux solidarités vis-à-vis des générations futures. L'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre, et inversement, mais le développement durable dit l'arbitrage entre ces enjeux.
Merci à Ronan Dantec, sénateur vice-président de Nantes Métropole en charge de l'environnement. Merci à Aude, Mohamed, Hervé, nouveaux habitants du quartier Bottière-Chenet, pour leur libre participation à ce reportage.
Quel est le risque aujourd'hui en termes d'écoquartiers en France et un peu plus largement en Europe ? C'est que ces écoquartiers qui vont devenir des vitrines, Betzen, enfin c'est un micro-quartier et quelques autres, sont des territoires de projet qui mobilisent énormément d'investissements. C'est-à-dire que ce sont des quartiers dont l'équilibre économique est fondé sur le pouvoir d'achat des classes moyennes supérieures. C'est la réalité d'un certain nombre d'écoquartiers quand on regarde leur dynamique économique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de l'écoquartier dont l'équilibre économique, ce soit les toutes petites classes moyennes.